Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, exactement 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info, Amandine, bonjour jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, une ex-ministre peut-être bientôt mise en examen dans la gestion de la crise du Covid. Agnès Buzyn comparaît devant la Cour de justice de la République. Ex-Aévier Bertrand lui tente de renouer avec ses anciens camarades. Et puis le dernier adieu à Bébel, vous le disiez, obsèque ce matin. Et une présence remarquée, celle d'Alain Delon.
Juste après le journal, vous le savez désormais, on décrypte, on débat et comme chaque jour, deux sujets. Faut-il faire taire Salah Abdeslam? La question se pose après deux jours de procès et les provocations à répétition. Et puis à 12h50, on reviendra sur l'audition d'Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. Et cette question, faut-il juger les ministres? Peut-on gérer une crise sous la pression judiciaire?
La météo du jour, c'est avec vous Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Amandine.
Ce sera encore bien perturbé cet après-midi.
Absolument, avec encore des averses sur tout le pays qui pourront être orageuses par moments avec un risque fort au niveau des cumuls, que ce soit sur la Corse ou le sud de la région PACA, avec des températures en moyenne pour cet après-midi comprises entre 23 et 24 degrés.
Merci Claire, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc, direction la Cour de justice de la République. C'est là qu'Agnès Buzyn est entendue depuis ce matin 9h. Première ministre priée de s'expliquer sur la gestion gouvernementale de la crise du Covid. Et à son arrivée, l'ex-ministre de la Santé s'est dit déterminé à défendre l'action du gouvernement.
Aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement, mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise sanitaire mondiale, dont je le rappelle, elle dure encore.
Agnès Buzyn au micro RTL de Guillaume Chiez. Guillaume, bonjour, on vous retrouve sur place. L'audition se poursuit. Que risque Agnès Buzyn?
Eh bien, elle risque, dans le pire des cas, une mise en examen pour abstention de combattre un sinistre. Un délit passible d'une peine maximale de 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Les juges peuvent aussi retenir la mise en danger de la vie d'autrui. Délit plus légèrement sanctionné par le code pénal. Mais l'ex-ministre de la Santé peut tout aussi bien ressortir du bureau des juges sous le simple statut de témoin assisté. Tout cela va dépendre des débats qui ont lieu en ce moment. Les magistrats vont mettre Agnès Buzyn face à ses contradictions, notamment ses déclarations à 2 mois d'intervalle, expliquant en janvier que les risques de propagation du coronavirus en France étaient très faibles, puis en mars, alors qu'elle n'était plus ministre, que l'organisation des élections municipales était une mascarade, que la vague était devant nous. Plus largement, la Cour de justice de la République va se pencher sur une question. Agnès Buzyn a-t-elle pris toutes les mesures suffisantes pour équiper la population, notamment les soignants, face au Covid-19.
Guillaume Chiez devant la Cour de justice de la République pour RTL.
Faut-il juger les ministres? Est-ce qu'il existe des effets pervers? Peut-être que les ministres n'oseront plus prendre de décision s'ils savent qu'ils peuvent être passés devant la justice. Eh bien, vous pourrez donner votre sentiment sur ce sujet. Durant les auditeurs ont la parole et à 12h50, on aura un débat.
Cette crise sanitaire, en tout cas, rime aujourd'hui avec passe sanitaire. Il est en théorie obligatoire dans les trains et ce depuis un mois, tout juste depuis le 9 août. Mais RTL vous le révélait ce matin, les contrôles sont très aléatoires. À peine 20% des trains longue distance. Didier Matisse est secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire.
Il y a 3500 gares, donc vous ne pouvez pas avoir des personnes qui contrôlent dans toutes ces gares. Et il avait toujours été prévu dès le départ que ce seront des contrôles aléatoires et non pas des contrôles massifs.
La SNCF doit faire appel à des prestataires extérieurs, donc c'est un poids en plus.
Nous demanderons de toute façon à l'entreprise les comptes justement et combien ça coûtait à la SNCF pour envoyer la facture au gouvernement, car c'est à la suite d'une décision gouvernementale que l'entreprise a été obligée d'embaucher massivement des CDD pour faire ces contrôles.
C'est parce que vous n'avez pas voulu les faire directement, surtout.
Ce n'est pas qu'on n'avait pas voulu, mais un contrôleur dans un TGV, il ne peut pas contrôler 500 personnes avant le départ du train.
Le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire avec Jérôme Florin ce matin sur RTL. Un pass sanitaire bientôt obligatoire aux États-Unis pour tous les employés des entreprises de plus de 100 salariés. Joe Biden l'a annoncé cette nuit. Et les fonctionnaires, eux, auront désormais obligation de se faire vacciner. Cela concerne 100 millions d'Américains, soit 2/3 des travailleurs.
On a été patient, mais notre patience a des limites et votre refus nous coûte cher. Faites-le. Ce n'est pas une question de liberté, de choix personnel. Il s'agit de vous protéger, vous et ceux qui vous entourent.
Le président des États-Unis, Joe Biden, cette nuit, les États-Unis qui s'apprêtent à commémorer les attentats du 11 septembre, 20 ans après, et alors que se tient en ce moment même à Paris le procès des attaques du 13 novembre, Laurent Nunez a rappelé ce matin sur RTL que la menace reste très élevée sur le sol français. Autre source d'inquiétude, l'ultra-droite.
L'ultra-droite, on voit bien que la mouvance évolue ces derniers mois. On voit de plus en plus d'individus qui essaient de rentrer très rapidement en clandestinité et qui veulent s'en prendre à nos institutions démocratiques représentatives. Et ce sont cinq cellules qui ont été démantelées depuis 2017, ce qui est énorme. Nous n'avons pas eu d'attaque aboutie sur le territoire national, mais nous sommes extrêmement attentifs à la mouvance qui, encore une fois, j'insiste bien, rentre de plus en plus dans une logique de clandestinité et avec des projets très clairs de passer à l'action violente.
Laurent Nunez, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, il était ce matin sur RTL l'invité d'Yves Calvi.
La politique et c'est l'image du jour à droite, le retour aux sources de Xavier Bertrand.
Le président des Hauts-de-France qui a décidé, vous le savez, de faire cavalier seul pour la présidentielle, participe aux journées parlementaires des LR à Nîmes. Marie Mollet, vous êtes sur place pour RTL, c'est quoi? Une opération réconciliation, opération séduction?
Oui, exactement, avec hier soir un dîner inédit avec les ténors LR et tous les candidats de la droite. Porcelet à la broche et musique disco, voilà pour la photo. Et ce matin, Xavier Bertrand a inondé les députés LR de douceur et de miel.
Je n'imagine pas remporter cette élection présidentielle sans le soutien de ma famille politique. Parce que j'ai quitté le parti, je dois faire plus d'efforts que d'autres.
Un mot d'amour pour chacun, personne n'est oublié.
De Valérie avec son talent, la connaissance de Philippe, la détermination d'Éric.
Pas même Laurent Wauquiez avec qui ses relations sont gelées, façon bise glaciale.
C'est vrai qu'on a eu souvent des différences, mais je n'imagine pas que l'on puisse faire campagne sans Laurent.
Mais sur le fond, pas de révolution. Pas question de participer à une primaire. Donc, rien n'a bougé, regrettent les soutiens de Valérie Pécresse, comme le député Robin Reda.
Xavier Bertrand a réitéré ce matin qu'il refusait le jeu collectif. On attend encore comment cette unité va réellement se traduire pour lui.
Mais au moins, il a fait un pas, corrige un député. Bon, d'accord, dit-il, c'est qu'il n'avait plus le choix.
Anime le reportage RTL de Marie Mollet. Les Républicains qui surveillent de près la probable candidature d'Éric Zemmour. Une grenade découpillée visant à faire exploser la droite. Voilà ce qu'a dit Damien Abad, le patron des députés LR. Le polémiste de son côté accuse le gouvernement d'avoir fait pression sur le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a demandé aux chaînes de télé et de radio de décompter son temps de parole.
C'est intéressant d'ailleurs puisque le CSA a créé un statut uniquement pour Éric Zemmour de pré-candidat. Faut-il décompter le temps de parole d'Éric Zemmour? Est-il victime de censure? La question sera posée durant les auditeurs tout à l'heure.
À Pamiers, en Ariège, les 15 000 habitants peuvent à nouveau circuler librement. Les mesures de confinement prises ce matin après un incendie dans une usine de métallurgie ont été levées a priori. Aucun blessé. Après l'hommage national, celui de ses proches, c'est ce matin qu'ont eu lieu les obsèques de Jean-Paul Belmondo. La cérémonie organisée en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris touche à sa fin. Laurent Marsic, bonjour, vous êtes sur place pour RTL. Bonjour. Parmi les images qu'on retiendra, il y en a une, la présence d'Alain Delon, qui était absent, on le rappelle, hier aux Invalides.
Oui, le copain Alain Delon qui sur RTL disait être anéanti par la mort de son ami d'enfance, le camarade de jeu dans Borsalino à qui Jean-Paul Belmondo lançait à la fin du film, souvenez-vous, à la fin il n'en restera qu'un, ben on y est. Alain Belmondo, masque et lunettes noires, béquille à la main, soutenu par son fils Anthony, puis il s'est avancé seul vers la foule, un immense sourire sur son visage, il a enlevé son masque, saluant d'un geste la centaine d'anonymes présents qui l'applaudissaient évidemment. Des fans touché par cette délicate attention de l'acteur qu'on n'avait pas revu depuis son accident, son AVC, et touché comme pour cette dame Sophie.
Oui, c'est bien, c'est chouette que le copain soit venu. C'est peut-être pas son meilleur copain, c'est peut-être un copinage d'écran, si je puis dire. Voyez, enfin pour moi, il est d'une grande beauté, Alain Delon, spectaculaire.
Voilà, la cérémonie, elle s'est déroulée, elle est en train de se terminer, elle s'est déroulée dans la plus stricte intimité, porte de l'église fermée, et ils étaient très très nombreux à avoir fait le déplacement, impossible de vous citer tout le monde. On a vu passer Jean Dujardin, Gilles Lelouch, ou encore Daniel Thompson, Pierre Richard et bien d'autres. La conclusion de cette cérémonie, la crémation, maintenant va se dérouler dans la plus stricte intimité.
Merci beaucoup Laurent Marsic, c'est rigolo, vous avez dit Laurent, Alain Belmondo comme si c'était deux hommes, mais non justement.
J'ai failli dire tout à l'heure la même chose Laurent.
Le destin de ces deux hommes est lié à jamais.
intéressant parce que c'est assez lacanien. On ne va pas rentrer dans, dans une analyse freudienne, si vous voulez. Mais j'ai failli dire tout à l'heure Alain Belmondo en ouvrant le journal de la même manière que vous. Mais vous avez raison de dire que c'est la première fois qu'on voit Alain Delon en public depuis son AVC. Et il y avait quelque chose de poignant à voir cet homme qui est de 1935, qui a donc 86 ans, encore à 86 ans le 8 novembre prochain, de se déplacer comme ça avec une béquille et suivre son copain de toujours.
Voilà, et à l'instant, la cérémonie touche à sa fin. Voilà. Avec ce cercueil donc qui va quitter l'église de Saint-Germain-des-Prés. Merci beaucoup Laurent Marsic, en direct donc depuis Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un tout petit mot de foot, ce soir début de la 5e journée de Ligue 1, Lorient reçoit Lille, le champion en titre. Le match sera bien sûr à suivre sur RTL. RTL Foot, c'est comme tous les vendredis, dès 20h.
Deux sujets dans un instant. Faut-il faire taire Salah Abdeslam? La question se pose après deux jours de procès et de provocations à répétition. Et puis ensuite, on parlera d'Agnès Buzyn. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
On redoutait qu'il soit terré dans son silence. Il a au contraire choisi de parler pour provoquer.
De nouvelles provocations de Salah Abdeslam. Des prises de parole intempestives.
Les provocations et l'arrogance du principal accusé Salah Abdeslam.
Troisième jour du procès des attentats du 13 novembre. Et déjà, on s'interroge. Faut-il faire taire Salah Abdeslam? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Samia Maktouf.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'avocate de plusieurs parties civiles. Merci infiniment d'être en direct avec nous depuis le palais de justice de Paris. Est-ce que ça vous inquiète justement ces provocations à répétition? N'est-on pas en train d'accorder finalement une tribune à Salah Abdeslam?
Alors d'abord, permettez-moi de rappeler qu'il ne s'agit pas du procès que de Salah Abdeslam.
Bien sûr.
Il y a 14 autres accusés aussi dont le rôle est aussi important que Salah Abdeslam, et ça va se clarifier pendant le procès. Par ailleurs, comme l'a rappelé Monsieur le Président de cette cour d'assises spécialement constituée dans son propos liminaire, ce propos hors norme doit respecter une des normes les plus importantes, qui est le respect du droit de la défense. Alors, certes, les parties civiles attendaient depuis 6 ans l'ouverture de ce procès, attendent de connaître la vérité, les circonstances, mais bien sûr, pas des propos et du prosélytisme et de la provocation et déverser la haine par Salah Abdeslam. Donc, vous voyez, il est important de remettre les propos de Salah Abdeslam dans le cadre que lui souhaite donner, à savoir bénéficier de cette tribune. Mais en même temps, nous sommes dans une démocratie. Le respect du droit de la défense doit être respecté. Il est en train de dire, d'offusquer, de choquer, de s'attaquer ses propos. C'est une attaque directe aux victimes. Mais nous faisons tous confiance au président de cette cour qui, jusque-là, mène les audiences magistralement.
Il a eu raison de lui couper son micro hier, par exemple.
Il a eu raison de lui couper hier son micro, mais il ne peut pas le faire avant qu'il ne commence à parler, parce que oui, la défense et les accusés ont le droit de s'exprimer et le dernier mot leur appartient, mais cet équilibre appartient et il sera certainement bien assuré par monsieur le président de cette...
Mais pas que par le président d'ailleurs, si vous me permettez, et c'est un des problèmes, me semble-t-il. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une défense de rupture que fait Abdeslam. Un peu comme Barbie l'avait faite en son temps. C'est-à-dire que ne reconnaissant pas le procès, ne reconnaissant pas les juges qui vont le juger. Simplement, Barbie, il était défendu par Vergès, qui savait manier ce qu'était une défense de rupture. Et là, j'ai peur que cette jeune avocate aujourd'hui, qui n'a pas une expérience très importante, soit peut-être débordée elle-même par Salah Abdeslam.
Alors, donnez-lui la chance de rentrer aussi dans le procès, comme nous tous. En tout cas, moi, je voudrais rappeler que pour nous, parties civiles et avocats et victimes que je représente, il est certes extrêmement choquant et difficile à entendre ces propos, mais en même temps...
Mais c'est l'état de droit qui permet de les entendre. Alors, Cindy Hubert est là. Cindy Hubert est là et elle va pouvoir peut-être donner son avis puisqu'elle a assisté précisément aux premières audiences.
Je suis de l'avis de Maître Mactouf dans le sens où, pour l'instant, l'avocate de Salah Abdeslam n'a pas encore eu la parole. On ne sait pas quelle va être sa stratégie. Elle n'a pas encore eu la parole, elle n'a pas ouvert la bouche. On ne sait pas si elle serait dans une défense de rupture, mais elle connaît très bien les dossiers terroristes. Et je ne doute pas qu'elle va trouver un chemin pour accompagner Salah Abdeslam. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit pendant tous ces mois où ils ont préparé une défense. On ne sait pas non plus si elle a été prise de court.
Quand je dis défense de rupture, manifestement, c'est lui qui la met en place, cette défense de rupture.
C'est pas forcément calculé avec l'avocate.
C'est Salah Abdeslam qui gère tout depuis son arrestation. Mmh. Il est dans le silence, il est dans la provocation, il est dans le prosélytisme. Il est un soldat de Daesh. Tout a été dit. Et c'est bien que ça soit dit. Nous avons préparé nos victimes. Nous leur avons dit, s'ils parlent, c'est soit pour la profession de foi, soit pour défendre les co-accusés. Mais il ne parlera pas pour dire la vérité parce qu'il ne reconnaît pas cette cour d'assises, il ne reconnaît pas notre droit, il ne nous reconnaît pas non plus. Il parle un langage autre que le nôtre. Donc voilà.
Comme le temps est très limité dans nos débats, je vous propose d'écouter Amandine Bégaud.
Avec Cindy Hubert qui suit donc ce procès pour RTL. Cindy, hier vous avez tweeté ce message que je vais lire. Comment raconter l'audience et ne pas offrir une tribune à Salah Abdeslam qui n'en finit pas d'enchaîner les provocations? Les médias ont une vraie responsabilité, me semble-t-il, à nous de trouver une ligne de crête pour tenir ces 9 mois d'audience. Ça fait 3 jours que ce procès a commencé. Il y a 3 jours, on se demandait s'il allait parler, s'il allait être là. Et là, on est en train de s'interroger. Votre rôle à vous, de journaliste, il est compliqué.
En fait, on s'est posé la question dès le jour 1, dès le soir, puisqu'il y avait déjà eu, on était déjà à 2 incidents, et on s'est dit comment on va faire. On ne peut pas non plus devenir la courroie de transmission de Salah Abdeslam, de relayer à chaque fois ses coups d'éclat. Donc je crois qu'il va falloir tout simplement faire notre travail, c'est-à-dire faire des choix, relayer ses propos quand ça a un intérêt pour le débat, et contextualiser en réalité, faire notre travail. On ne peut pas non plus passer ses paroles sous silence, ça fait partie du procès. Donc, il reste 127 jours. Il va falloir qu'on arrive à relayer les paroles de Salah Abdeslam sans faire de lui une star de ces 9 mois de procès.
Ces propos, vous les interprétez comment, Cindy? Il y a une stratégie, d'après vous, derrière tout ça?
Alors, on ne sait pas. On n'est pas dans la tête de Salah Abdeslam, mais on peut imaginer que c'est peut-être aussi un message pour le monde djihadiste, mais aussi pour le monde carcéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est incarcéré à Fleury-Mérogis. Finalement, Salah Abdeslam, qu'est-ce qu'il a fait le soir du 13 novembre? Il a renoncé. On sait que sa ceinture explosive n'a pas marché. Il a été vu par beaucoup au sein du monde djihadiste comme un lâche. Alors peut-être qu'il essaye de se refaire un peu une légitimité aux yeux du reste de ces djihadistes.
Merci beaucoup, Cindy. Merci aussi à vous, Maître Mactouf, d'avoir été en direct avec nous dans RTL Midi. Merci.
Merci, effectivement. Et on va entamer un deuxième débat. On va revenir sur l'audition d'Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. Et cette question, faut-il juger les ministres? Peut-on gérer une crise sous la pression judiciaire? On attend d'ailleurs des informations qu'on n'a pas pour le moment encore. Agnès Buzyn, elle était entendue ce matin. On ne sait pas s'il y a des mises en examen.
C'est une des possibilités, mais c'est pas dit.
12h50, à tout de suite.
RTL. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits.
C'est l'une des images du jour. Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République, premier membre du gouvernement à être entendu dans la gestion de la crise du Covid. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait hier Jean Castex, le Premier ministre.
Il faut à tout prix éviter ce que vous dites, c'est-à-dire il ne faut pas que la paralysie guette l'action des pouvoirs publics au moment, au contraire, où on a absolument besoin de décisions pour faire face à des crises.
Et il ne faut pas que la paralysie guette l'action des pouvoirs publics, dit le Premier ministre. Bonjour Céline Guérin-Bargues.
Bonjour madame.
Vous êtes professeure agrégée de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et auteur de « Juger les politiques, point d'interrogation » paru aux éditions Dalloz. C'est justement la question, hein, faut-il juger les ministres? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à les empêcher finalement de gouverner sous la menace judiciaire?
Ben oui, tout à fait. C'est certainement ce que soulignait le Premier ministre Jean Castex hier, je crois. Simplement, d'autres questions, faut-il juger les ministres? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que nous allons avoir des ministres pour des faits de mauvaise administration, d'incompétence ministérielle, qui vont voir leur responsabilité saisie, leur responsabilité pénale, saisie par le moyen du droit pénal, par la Cour de justice de la République, qui, peut-être faut-il le préciser pour vos auditeurs, est une curieuse juridiction prévue par la Constitution avec un filtre, une commission d'instruction devant laquelle, je crois, Mme Buzyn est en ce moment entendue, hein, faite de trois magistrats de la Cour de cassation, et une formation de jugement qui est faite de, qui est composée de 6 députés et de 6 sénateurs. Alors, est-ce qu'il faut juger ces ministres via cette juridiction? La question est évidemment complexe parce qu'on ne peut que comprendre, hein, la frustration, la douleur des victimes qui ont besoin d'explications face à une gestion qui s'est peut-être montrée un peu cafouilleuse. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier non plus, d'une part, qu'il s'agissait d'une pandémie mondiale sans précédent, qu'il y a certainement eu des erreurs qui ont été commises, mais si les erreurs ont été commises, c'est dans le cadre de la gestion d'un ministère, et dans un système bien constitué, cela relève de la responsabilité politique et pas nécessairement de la responsabilité pénale.
Nous sommes d'accord, d'autant que dans le cas Buzyn, elle pourrait être mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais en l'espèce de cette mise en danger de la vie d'autrui, faudrait qu'il y ait une volonté de la part de Mme Buzyn d'avoir précisément voulu mettre en danger la vie d'autrui. Et ça me paraît absolument invraisemblable. Elle n'avait pas cette volonté-là. Donc je vois des effets pervers, et ce que disait pour le coup le Premier ministre, pourtant on n'a pas toujours été tendre hein, envers l'exécutif, mais il y a possibilité de ministres qui seront complètement paralysés.
Mais tout à fait, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers cette incrimination de mise en danger de la vie d'autrui, comme vous l'avez souligné, le fait qu'il y a l'idée d'une violation délibérée. Par exemple,
et là, ça ne peut pas être le cas. On peut dire qu'elle est incompétente, on peut dire qu'elle n'a pas pris la bonne décision, etc. Mais il n'y a pas cette volonté de mettre la vie d'autrui en péril.
Certainement pas.
Sur le plan pénal, hein, j'entends bien.
Oui, bien sûr. Et c'est là où on voit que le droit pénal n'est absolument pas le bon outil pour se saisir de ces faits.
Bah alors justement, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est quoi le bon outil?
Ah, le bon outil, c'est la responsabilité politique devant le Parlement. Ce sont les commissions d'enquête parlementaires. C'est le fait d'avoir des ministres qui répondent aux questions, qui sont entendus, qui prêtent serment, et éventuellement de revoir les choses au niveau de la responsabilité politique. Le problème, c'est qu'effectivement, cette responsabilité politique, elle n'a pas cette dimension, si vous voulez, individuelle, ce prétoire qui est très important aux yeux des victimes. On le voit, c'est
toute. Et oui, mais il y a un côté justice sans culotte, un peu, si vous me permettez, un peu tribunal révolutionnaire.
Ah, un petit peu, enfin, cela étant, les choses sont quand même plus cadrées hein, qu'à l'époque révolutionnaire devant la Cour de
justice. J'entends bien, mais c'est une image, vous voyez ce que je veux dire, c'est une justice, on réclame des têtes, c'est ça que je vois dans cette mise en examen possible.
Il y a un peu de cela, et surtout il y a un double danger, je crois. Alors, il y a un danger qui vous apparaîtra peut-être un peu théorique, qui est lié à la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on va avoir des juges, hein, épaulés éventuellement par des parlementaires, qui vont se faire éventuellement les censeurs de l'action du gouvernement. Ce n'est pas leur rôle. L'autorité judiciaire, normalement, est séparée de l'exécutif. Et puis, il y a un risque plus concret, qui est celui de la neutralisation de l'action publique. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des plaintes, on risque aussi d'encourager soit une forme d'inaction, soit, à l'inverse, une forme de prudence excessive. Alors, gouverner, c'est prévoir, certes, mais il est parfois bien difficile de prévoir, surtout sous la menace de plainte pénale.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Guérin-Bargues. Et c'était très intéressant. Ça, c'est un bon débat.
C'est un bon débat, mais c'est presque un sujet de philo aussi.
C'est exactement. Mmh. C'est ce que j'allais vous dire. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo sont achevées. Et en ce moment, la famille est en train de sortir de l'église Saint-Germain-des-Prés, Victor Belmondo. Stella Belmondo et toute sa famille sont en train d'entourer, évidemment, le convoi funéraire. On va se retrouver dans une seconde.
Et on ira sur place, justement.
Et on pourra partir, évidemment, pour Saint-Germain-des-Prés. À tout de suite.
RTL Midi. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.